romancier, dramaturge, grand raconteur d'histoire, dialoguiste de génie, ce fut en homme de lettres que Marcel Pagnol aborda le cinéma et devint bien plus et bien mieux cinéaste que la plupart des réalisateurs de son époque. Davantage encore que par la littérature, ce fut d'ailleurs sans doute par le cinéma que lui vint la gloire. Mais au commencement de Pagnol était le verbe, l'écrit, le livre. Interprète de Manon Dessources et de Naïs, la comédienne Jacqueline Bouvier, devenue Jacqueline Pagnol en 1945, était tombée elle aussi dans la littérature dès son plus jeune âge. En 1972, dans une émission intitulée « Des couples et des couleurs », Patrice Galbaud interrogeait les lecteurs Pagnol sur les livres qui avaient marqué leur enfance, leur jeunesse, et sur ceux auxquels ils accordaient leur temps disponible pour la lecture. Une émission qui permettait d'entendre Marcel Pagnol lire quelques pages du « Château de ma mère », d'entre tous ses romans, celui qu'il préférait, et à Jacqueline Pagnol de lire un extrait du « Roi des Aulnes », un livre pour lequel Michel Tournier avait obtenu le prix Goncourt en 1970. Des couples et des couleurs, avec Marcel et Jacqueline Pagnol, première diffusion le 27 juillet 1972 sur France Culture.
Eh bien oui, je suis ce soir chez Marcel Pagnol et Jacqueline Pagnol et je vais leur demander d'ouvrir pour nous leur bibliothèque et de nous parler un peu de leurs auteurs préférés. Marcel Pagnol, quels sont les livres qui ont marqué votre enfance ?
Bon, à peu près ceux qui ont marqué la vôtre également. Des livres pour enfants, je lisais surtout Dickens, Alphonse Daudet, Paul Arène, plutôt les écrivains provençaux.
Et Dumas ?
Dumas, je l'ai lu plus tard, parce que je ne l'avais pas dans ma bibliothèque, je n'étais pas assez riche pour avoir tout Alexandre Dumas. Je l'ai lu vers la 15e année Dumas, avec passion d'ailleurs, c'est un très grand romancier toujours. Et plus tard, alors j'ai lu beaucoup Proust, que je relis encore maintenant souvent, à peu près une fois par an, je relis Proust. Puis je lis Shakespeare, puisque j'en ai fait des traductions. Puis je lis alors tous les livres qu'on envoie pour les prix dont je fais partie du jury. Le jury de Monaco nous oblige à lire toute l'œuvre d'un écrivain. Et puis à l'Académie, il y a la commission des prix de poésie, il y a la commission des prix du roman, il y a l'infinité de prix. Alors il faut tout lire pour être honnête.
Et quand vous partez en vacances, vous emportez des livres que vous n'avez pas le temps de lire pendant le reste de l'année.
Alors, bien sûr, je lis beaucoup en été, là-bas, sous les palmiers. C'est très agréable. Les écrivains modernes sont assez intéressants aussi, vous savez. On reçoit beaucoup de livres pour des prix de l'Académie, où nous nous querellons pour savoir qui couronner.
Est-ce que ça vous ennuie de donner des noms d'auteurs contemporains ?
Il y en a beaucoup que je connais personnellement, comme par exemple Julien Green. N'est-ce pas ? Et les romanciers de l'Académie, comme Mauriac, comme était Mauroy. Je lisais tout ce qu'écrivaient mes confrères.
Est-ce que vous relisez vos livres ?
Oui, quelquefois. Quand on prépare une nouvelle édition, je les corrige d'ailleurs toujours. Il faut m'enlever les papiers des mains, autrement je ne donnerai jamais à l'imprimeur.
Jacqueline Pagnol, vous avez les mêmes goûts que Marcel Pagnol ?
Oh, c'est un peu différent. C'est un petit peu différent, bien sûr. Ce qui m'a marqué dans mon enfance, moi, c'était... J'avais un parrain qui m'offrait tous les ans des livres de la Bibliothèque Rose. Alors, il y avait surtout la Comtesse de Ségur. Alors, j'adorais la Comtesse de Ségur. Les contes de la Comtesse de Ségur qui sont très, très beaux. Je les ai relus encore récemment, je les relis tout le temps. Il y a des choses merveilleuses. Et puis, les contes d'Andersen.
Et parmi ces contes de la comtesse de Ségur, est-ce qu'il y en a un particulièrement dont vous vous souvenez?
Oui, il y a une histoire que j'avais adorée. C'est l'histoire de Blondine. C'est l'histoire d'une petite fille qui se perd dans la forêt. Et je vais vous lire ce qui lui arrive. Blondine dormit toute la nuit. Aucune bête féroce ne vint troubler son sommeil. Le froid ne se fit pas sentir. Elle se réveilla le lendemain, assez tard. Elle se frotta les yeux, très surprise de se voir entourée d'arbres, au lieu de se trouver dans sa chambre et dans son lit. Elle appela sa bonne. Un miaulement doux lui répondit. Étonnée et presque effrayée, elle regarda à terre et vit à ses pieds un magnifique chat blanc qui la regardait avec douceur et qui miaulait. « Oh, bon Minon, que tu es jolie !» s'écria Blondine, en passant la main sur ses beaux poils blancs, comme la neige. « Je suis bien contente de te voir, beau Minon, car tu me mèneras à ta maison. Mais j'ai bien faim, et je n'aurai pas la force de marcher avant d'avoir mangé. » À peine eut-elle achevé ces paroles, que Beau Minon miaula encore et lui montra avec sa petite patte un paquet posé près d'elle et qui était enveloppé dans un linge fin et blanc. Elle ouvrit le paquet et y trouva des tartines de beurre. Elle mordit dans une des tartines, la trouva délicieuse et en donna quelques morceaux à Beau Minon qui eut l'air de les croquer avec délice. Quand elle et Beau Minon eurent bien mangé, Blondine se pencha vers lui, le caressa et lui dit « Merci, mon beau Minon, du déjeuner que tu m'as apporté. Maintenant, peux-tu me ramener à mon père qui doit se désoler de mon absence ?» Mais Beau Minon secoua la tête en faisant un miaulement plaintif. « Ah, tu me comprends, beau Minon, » dit Blondine. « Alors aie pitié de moi et mène-moi dans une maison quelconque pour que je ne périsse pas de faim, de froid et de terreur dans cette affreuse forêt. » Beau Minon la regarda, fit avec sa tête blanche un petit signe qu'il voulait dire qu'il comprenait, se leva, fit plusieurs pas et se retourna pour voir si Blondine suivait. « Me voici, Beau Minon, » dit Blondine, « je te suis. Mais comment pourrons-nous passer dans ces buissons si touffus? Je ne vois pas de chemin. » Beau Minon, pour toute réponse, s'élança dans les buissons qui s'ouvrirent d'eux-mêmes pour laisser passer Beau Minon et Blondine et qui se refermèrent quand ils étaient passés. Blondine marcha ainsi pendant une heure. À mesure qu'elle avançait, la forêt devenait plus claire, l'herbe était plus fine, les fleurs croissaient en abondance, on voyait de jolis oiseaux qui chantaient, des écureuils qui grimpaient le long des branches. Blondine, qui ne doutait pas qu'elle allait sortir de la forêt et qu'elle reverrait son père, était enchantée de tout ce qu'elle voyait. Elle se serait volontiers arrêtée pour cueillir des fleurs. Mais Beau Minon trottait toujours en avant et miaulait tristement quand Blondine faisait mine de s'arrêter. Au bout d'une heure, Blondine aperçut un magnifique château. Beau Minon la conduisit jusqu'à la grille dorée. Blondine ne savait pas comment faire pour y entrer. Il n'y avait pas de sonnette et la grille était fermée. Beau Minon avait disparu et Blondine était seule.
Quand vous étiez une petite fille modèle, Jacqueline Pagnol, vous lisiez La Comtesse de Ségur.
Et puis, je me souviens aussi d'un livre de Genevoix qui m'a marquée quand j'étais petite, qui s'appelle Roux, c'était l'histoire d'un chat.
C'était très très beau, ça me faisait verser des larmes.
Ah, oui.
Et puis j'ai découvert le théâtre en lisant Cyrano, je devais avoir 8 ou 9 ans. Alors, l'acte du siège d'Arras me faisait mourir de rire. Les astuces, tu sais, de Cyrano, les jeux de mots, c'était irrésistible. Et puis je pleurais à la fin, parce que le dernier acte est sublime. Je continue d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai lu encore? Oh, Don Quichotte aussi. Mais je comprenais pas très bien, c'était... Je l'ai relu plus tard. Et...
Est-ce que vous avez, comme Marcel Pagnol, des livres que vous relisez?
Oui, tout le temps. Jacques London, Zola, Balzac, je reprends tout ça régulièrement. Daudet, que j'adore. Bovary, que j'aime tendrement. Et puis Dickens. Guerre et paix, je le reprends très très souvent. Et je lis beaucoup parce que Marcel vous a dit tout à l'heure qu'il avait des quantités de bouquins à lire et... Je fais une prélecture. Alors, dans les contemporains, il y a des romans que j'ai adorés. Le concours de l'année passée, Le roi des zones de Michel Tournier, qui est une œuvre baroque merveilleuse. Albert Cohen aussi, qui a eu un prix à l'Académie, Belle du Seigneur. Vous l'avez lu?
Oui, c'est très beau.
C'est très beau.
Oui.
Albert était en classe avec moi, au lycée de Marseille. Nous avons fait toutes nos études ensemble. Et dans notre classe, il y avait aussi Marcel Brion. Et quand Albert a eu le grand prix du roman de l'Académie, c'est nous deux qui avons téléphoné. Et Albert a dit, mais si ça commence avec ça, c'était notre professeur. Et il était mort, malheureusement, ça commence depuis longtemps.
Vous avez dit tout à l'heure que vous relisiez Shakespeare, mais quels sont vos auteurs de théâtre?
Oh, à peu près tous, je lis tout ce qui paraît sur le théâtre, bien entendu. J'ai traduit Hamlet de Shakespeare, j'ai traduit aussi Le songe d'une nuit d'été, par exemple. Ce n'est pas facile, c'est un gros travail. Je relis volontiers les pièces de Shakespeare en cherchant à percer son secret. Et donc, le génie a des secrets que personne ne sait.
Marcel Pagnol, quel est le livre de vous que vous préférez?
Le château de ma mère, c'est mon livre préféré. Moi.
C'est celui que vous préférez?
Oui.
Est-ce que je peux vous demander d'en lire quelques passages?
Après l'épopée cinégétique des Bartavel, je fus d'emblée admis dans l'équipe de chasse, mais en qualité de rabatteur et de chien rapporteur. Tous les matins, vers 4 heures, mon père ouvrait la porte de ma chambre et chuchotait « Veux-tu venir ?» Ni les ronflements puissants de l'oncle Jules, ni les hurlements des cousins Pierre qui réclamaient son biberon vers les 2 heures du matin n'avaient la force de traverser mon sommeil. Mais le chuchotement de mon père me jetait à bas de mon lit. Je m'habillais dans la nuit en silence pour ne pas réveiller notre petit Paul et je descendais à la cuisine où l'oncle Jules, les yeux bouffis et l'air un peu hagard des grandes personnes qui s'éveillent, faisait chauffer le café pendant que mon père remplissait les carniers et que je garnissais les cartouchières. Nous sortions sans faire de bruit. L'oncle Jules refermait la porte à double tour et il allait mettre la clé sur la fenêtre de la cuisine dont il repoussait les volets. L'aube était fraîche. Quelques planètes apeurées clignotaient toutes pâles. Sur les barres du plan de l'aigle, le bord de la nuit amincie était brodé de brumes blanches, et dans la pinette du petit œil, une chouette mélancolique faisait ses adieux aux étoiles. Nous montions tout le long de l'aurore jusqu'aux pierres rouges de Rodunéo, mais nous y passions sans bruit, parce que Baptistin, le fils de François, y faisait le poste, aux ortolans, à grand renfort de vergettes et de glues. Il en avait souvent jusque dans les cheveux. Nous arrivions ensuite, marchant dans l'ombre en file indienne, au jas de Baptiste. C'était une antique bergerie où notre ami François dormait quelquefois avec ses chèvres. Là, sur la longue plaine qui montait vers le Taoumé, les rayons rouges du soleil nouveau faisaient peu à peu surgir les pins, les cades, les messugues, et comme un navire qui sort de la brume, la haute proue du pic solitaire se dressait soudain devant nous. Les chasseurs descendaient au vallon, tantôt à gauche dans les escaupres, tantôt à droite sur la garette et passe-temps. Pour moi, je suivais le bord du plateau, à 30 ou 40 mètres de la barre. Je rabattais sur eux toute chose volante, et quand il m'arrivait de lever un lièvre, Je courais vers la pique et je faisais de grands signaux comme un marin du temps jadis. Alors ils montaient en hâte me rejoindre et nous traquions sans pitié l'oreillard. Jamais, non, jamais nous ne revîmes une Bartavelle. Pourtant, sans en parler, nous les cherchions partout, et surtout dans le ravin sacré de la sublime chasse. Nous en approchions en rampant à plat ventre sous les kermesses et les argiras, ce qui nous permit souvent de surprendre des perdrix, des lièvres et même un blaireau, que l'oncle Jules foudroya presque à bout portant. Mais les perdrix royales s'étaient envolées dans une légende où elles sont restées depuis, sans aucun doute par peur de Joseph, dont l'auréole en fut agrandie. Installé sur cette gloire, il était devenu redoutable. Le succès fait souvent le talent. Persuadé que désormais il ne pouvait manquer le coup du roi, il le réussissait en toute occasion, et avec une si parfaite aisance que l'oncle Jules finit par dire « Ce n'est plus le coup du roi, c'est le coup de Joseph ». Un matin vers 9h, je trottais légèrement sur le plateau qui domine le Puy du Mûrier. Au fond du vallon, l'oncle était à l'affût, dans un grand lierre, et mon père se cachait derrière un rideau de clématite, sous igneuse à flanc de coteau. Avec un long bâton de cade, ce bois si dur qui paraît tendre dans la main, parce qu'il est onctueux et lisse, je battais les touffes d'argéras, mais les perdrix n'étaient pas là, ni le lièvre volant de la baume sourne. Cependant, je faisais consciencieusement mon métier de chien lorsque je remarquais au bord de la barre une sorte de stèle, faite de 5 ou 6 grosses pierres entassées par la main de l'homme. Je m'approchai et je vis au pied de la stèle un oiseau mort. Son cou était serré entre les 2 arceaux de laiton d'un piège à ressort. L'oiseau était plus gros qu'une grive. Il avait un joli plumet sur la tête. Je me baissai pour le ramasser lorsqu'une voix fraîche cria derrière moi « Hé, l'ami !» Je vis un garçon de mon âge qui me regardait sévèrement. « Il ne faut pas toucher les pièges des autres, » dit-il. « Un piège, c'est sacré. » « Je n'allais pas le prendre, » dis-je. « Je voulais voir l'oiseau. » Il s'approcha. C'était un petit paysan. Il était brun, avec un fin visage provençal, des yeux noirs et de longs cils de fille. Il portait sous un vieux gilet de laine grise une chemise brune à manches longues qu'il avait roulée jusqu'au-dessus des coudes, une culotte courte et des espadrilles de cordes comme les miennes, mais il n'avait pas de chaussettes. « Quand on trouve un gibier dans un piège, dit-il, on a le droit de le prendre, mais il faut retendre le piège et le remettre à sa place. » Il dégagea l'oiseau et dit « C'est une bédouide. » Il le mit dans sa musette et prit dans la poche de son gilet un petit tube de roseau que fermait un bouchon mal taillé. Puis il en fit couler dans sa main gauche une grosse fourmi ailée. Avec une dextérité que j'admirais, il reboucha le tube, saisit la fourmi entre le pouce et l'index de la main droite, tandis que par une légère pression, sa main gauche forçait à s'ouvrir les extrémités de la petite pince en fil de métal qui était attachée au centre de l'engin. Ses extrémités étaient recourbées en demi-cercle et formaient en se refermant un minuscule anneau. Il y plaça la fine taille de la fourmi, qui resta ainsi captive. Les racines de ses ailes l'empêchaient de reculer, et son gros ventre d'avancer. Je demandai, « Où c'est que tu prends ces fourmis ?»« Ça, dit-il, c'est des aludes. Il y a autour des fourmilières, mais elles ne sortent jamais. Il faut creuser plus d'un mètre avec une pioche, ou alors il faut attendre la première pluie du mois de septembre. Dès que le soleil revient, elles s'envolent d'un seul coup. En mettant un sac mouillé sur le trou, c'est facile. » Il avait retendu le piège et il le replaça au pied de la stèle. Très vivement intéressé, je regardais l'opération et j'en notais tous les détails. Il se releva enfin et me demanda « Qui tu es ?» Pour me donner confiance, il ajouta « Moi, je suis Lily, des Belons. »« Moi aussi, dis-je, je suis des Belons. » Il se mit à rire. « Oh, que non, tu n'es pas des Belons, tu es de la ville. C'est pas toi, Marcel ?»« Oui, dis-je, flatté, tu me connais ?»« Je t'avais jamais vu, » dit-il. Mais c'est mon père qui vous a porté les meubles. Ça fait qu'il m'a parlé de toi. Ton père, c'est le calibre 12, celui des Bartavelles. Je fus ému de fierté. Oui, dis-je, c'est lui. Tu me les raconteras ? Quoi ? Les Bartavelles. Tu me diras où c'était, comment il a fait et tout le reste ? Oh oui, tout à l'heure, dit-il, quand j'aurai fini ma tournée. Il ajouta, quel âge tu as ? 9 ans. Moi, j'ai 8 ans, dit-il. Tu mets des pièges ? Non, je ne saurais pas. Si tu veux, je t'apprendrai. « Oh oui, » dis-je avec enthousiasme. « Viens, » dit-il, « je fais la tournée des miens. »« Je ne peux pas maintenant. Je fais la battue pour mon père et mon oncle. Ils sont cachés en bas du vallon. Il faut que je leur envoie les perdreaux. »« Les perdreaux, ça ne serait pas pour aujourd'hui. Ici, d'habitude, il y a trois compagnies. Mais ce matin, les bûcherons sont passés et ils leur ont fait peur. Deux compagnies sont parties vers la Garette et la troisième est descendue sur Passe-Temps. Nous pourrons peut-être leur envoyer la grosse lièvre. Et elle doit être par là, j'ai vu un pétoulier. Il voulait dire une nappe de crotte. Nous commençâmes donc la tournée des pièges tout en battant les broussailles. Mon nouvel ami ramassa plusieurs cublans, que les Français appellent motteux. Encore deux bédouides, il m'expliqua que c'était un genre d'alouette, et trois darnagas. Les gens de la ville leur disent « bec croisé », dit-il, mais nous, on leur dit « darnagas », parce que c'est un oiseau imbécile. S'il y en a un seul dans le pays et un seul piège, tu peux être sûr que le darnagas trouvera le piège et qu'il se fera étrangler. « C'est très bon à manger », ajouta-t-il. « Tiens, encore un couillon de limbert !» Il courut vers une autre stèle et ramassa un magnifique lézard. Il était d'un vert éclatant, semé sur les flancs de très petits points d'or et sur le dos de lunules bleues, d'un bleu de pastel. Lily dégagea ce beau cadavre et le jeta dans les buissons où je courus le ramasser. « Tu me le donnes ?» Il se mit à rire. « Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ?» On dit que les anciens les mangeaient, et à ce qu'il paraît que c'est très bon. Mais nous, on ne mange pas les bêtes froides. Je suis sûr que ça empoisonne. Je mis le beau lézard dans ma musette, mais je le jetai 10 mètres plus loin, car le piège suivant en avait pris un autre, qui était presque aussi long que mon bras, et encore plus brillant que le premier. Lily proféra quelques jurons en provençal, et supplia la Sainte Vierge de le protéger contre ses limbert. « Mais pourquoi, dis-je, tu ne vois pas qu'il me bouffe mes pièges? Quand un lézard est pris, un oiseau ne peut plus se prendre, et ça fait un piège de moins. » Ce fut ensuite le tour des rats. Ils avaient bouché deux pièges. C'étaient de gros rats bleus à la fourrure très douce. Lily se fâcha de nouveau et il ajouta « Cela, mon grand-père en faisait des civets. C'est des bêtes propres. Ça vit au grand air, ça mange des glands, des racines, des prunelles. Au fond, c'est aussi propre qu'un lapin. Seulement, c'est des rats. » Et alors, il fut une petite moue de dégoût. Les derniers engins avaient pris 4 darnagas et une pie. « Oh oh !» s'écria Lily, « une agace. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Et elle se prend à un piège tout nu. Ça devait être la fadade de la famille, parce que... » Mais il s'arrêta net, mit un doigt sur sa bouche, puis désigna au loin un fourré d'argiras. « Il y a quelque chose qui bouge là-dedans. Faisons le tour et pas de bruit. » Il s'élança d'un pas souple et muet, comme un vrai Comanche qu'il était sans le savoir. Je le suivis. Mais il me fit signe de décrire un arc de cercle plus grand sur la gauche. Il marchait dans la direction des argiras sans se presser, mais je courus pour exécuter la manœuvre d'encerclement. À 10 pas, il lança une pierre et sautant en l'air à plusieurs reprises, les bras écartés en poussant des cris sauvages. Je l'imitai. Tout à coup, il s'élança. Je vis sortir du fourré un lièvre énorme qui bondissait les oreilles droites, si grand qu'on voyait le jour sous son ventre. Je réussis à couper sa route. Il obliqua vers la barre et plongea dans une cheminée. Accourus au bord du plateau, nous le vîmes descendre tout droit et filer sous les fourrés du vallon. Nous attendîmes, le cœur battant. 2 détonations retentirent coup sur coup, puis 2 autres. Le 12 a tiré le second, dit Lily. On va les aider à trouver la lièvre. Il descendit avec l'aisance d'un singe par la cheminée. « Ça a l'air d'un mauvais passage, dit-il, mais c'est aussi bon qu'un escalier. » Je le suivis. Il parut apprécier mon agilité, enfin connaisseur. Pour quelqu'un de la ville, tu te débrouilles bien.
Évidemment, vous lisez beaucoup, Jacqueline Pagnol.
Oui, beaucoup.
Et parmi les auteurs contemporains, quel est votre favori?
Michel Tournier et Albert Cohen.
Et Michel Tournier, vous avez apporté un livre, là.
Oui.
Vous l'avez sorti de votre bibliothèque, c'est...
C'est le roi des zones.
C'est le roi des zones.
Il a eu d'ailleurs un concours.
Ça vous ennuie d'en lire un petit peu?
Oh non, pas du tout.
Thank you.
fut réveillé par des frôlements contre les murs de la maison. Quelqu'un marchait, semble-t-il, en s'appuyant aux planches et même contre la porte. Plus effrayé qu'il ne voulut se l'avouer, il se tourna vers la cloison et se rendormit. Les jours suivants, il réfléchit à cette visite nocturne. Il était fatal que sa présence au Canada fût tôt ou tard découverte. La fumée montant de la cheminée de la petite maison signalait sa présence à tout le voisinage. Mais comment renoncer à faire du feu ? Il se reprocha sa lâcheté. S'il devait avoir une nouvelle visite, mieux valait faire face et tenter de traiter avec l'intrus que de risquer une dénonciation. Plusieurs semaines se passèrent dans le calme. L'automne se prolongeait et le temps hésitait, semble-t-il, à basculer dans l'hiver. Une nuit, cependant, les pas lourds et les frôlements autour de la maison canadienne éveillèrent à nouveau Tiffauges. Il se leva et alla se placer contre la porte. Dehors, le silence était revenu. Il fut troublé soudain par une espèce de râle qui glaça Tiffauges jusqu'aux moelles. Puis il y eut un raclement contre la porte. Tiffauges l'ouvrit brusquement. L'animal tenait à la fois du cheval, du buffle et du cerf. Il fit un pas en avant et fut aussitôt arrêté par ces bois énormes, terminés par des palettes dentelées qui heurtèrent les montants de la porte. Levant la tête, il poussa alors vers Tiffauges son gros mufle rond, sous lequel l'ouverture triangulaire de la lèvre supérieure s'agitait délicatement comme le bout d'une trompe d'éléphant. Tiffauges avait entendu parler des troupeaux d'élans qui hantent encore le nord de la Prusse orientale, mais il était stupéfait de l'énorme masse de poils, de muscles et de bois qui menaçait d'envahir la maisonnette. La sollicitation de cette lèvre, qui se tendait vers lui, était si éloquente qu'il alla prendre un quignon de pain sur la table et l'offrit à l'élan. L'animal le renifla bruyamment et l'engloutit. Puis la mâchoire inférieure parut se déboîter sur le côté et une lente et consciencieuse mastication commença. L'élan devait être satisfait de cette offrande car il recula et disparut dans la nuit, silhouette gauche et pesante, dont la disgrâce et l'esseulement serraient le cœur. Ainsi, la faune de la Prusse orientale venait de déléguer à Tiffauges son premier représentant. Et il s'agissait d'une bête à demi fabuleuse qui paraissait sortir des grandes forêts hercyniennes de la préhistoire. Il demeura éveillé jusqu'au petit jour, ramené par cette visite à l'étrange conviction qu'il avait toujours eu de posséder des origines immémoriales, une racine en quelque sorte qui plongeait au plus profond de la nuit des temps. Désormais, chaque fois qu'il prenait le tunnel d'herbe pour gagner le Canada, il emportait quelques tronçons de rutabaga à l'intention de l'élan. Un jour que l'animal s'était présenté plus tardivement à la cabane, il eut le loisir de l'observer à la lumière de l'aube. Il était à la fois imposant et pitoyable, avec son garrot bosselé de 2 mètres de haut, dominant la courte encolure, l'énorme tête aux oreilles d'âne et aux bois lourds et grossiers, et la croupe osseuse soutenue par de longues échasses maigres et défectueuses. Il entreprit de brouter des buissons de myrtille et dut écarter ridiculement les pattes de devant pour atteindre le sol en raison de son encolure trop courte. Puis, la bouche tordue par la mastication, il releva son énorme tête. Tiffauges remarqua alors que 2 taies blanches recouvraient ses petits yeux. L'élan du Canada était aveugle. Dès lors, Tiffauges comprit ce comportement quémandeur, cette allure gauche, cette lenteur somnambulique. Et, à cause de sa terrible myopie, il se sentit proche du géant ténébreux.
Vous venez d'entendre Des couples et des couleurs avec Marcel et Jacqueline Pagnol, une émission de Patrice Galbaud, diffusée le 27 juillet 1972 sur France Culture. Réalisation Marcel Sicard.